19h, 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir à toutes, je suis très très heureux de recevoir Pascal Thomas ce soir. Mesdames et messieurs, mon invité a connu Alfred Hitchcock et Orson Welles. Oui, Pascal Thomas, c'est 50 ans de cinéma, vous êtes né en 44, un 2 avril comme Casanova, vous dites dans votre livre.
Oui, oui, comme Casanova, d'ailleurs, je pense que le 2 avril signale une sorte d'aptitude à vouloir séduire.
C'est
pas toujours à réussir, dans mon cas, mais Casanova non plus ne réussissait pas tout le temps.
C'est une qualité pour un artiste d'aimer plaire, peut-être.
Ah oui, c'est une exigence.
Mm-hmm. Vous êtes donc le cinéaste des Zozo en 1972, Pleure pas la bouche pleine en 73, Le chaud lapin en 74, Confidence pour confidence, qui est le film dont vous êtes le plus fier en 1979.
Le plus content, la fierté n'est pas chez moi.
Oui.
Le contentement, peut-être, le plaisir d'avoir fait ça, mais la fierté, non.
Et pourquoi ce film-là? C'est parce que ce sont trois sœurs, comme Tchekhov?
Il y en avait quatre au départ.
Oui.
Et oui, c'était pour raconter l'histoire d'une génération, disons, sur 15 ans. Le film s'arrête en décembre 1967. Vous devinez pourquoi.
Mm-hmm.
Donc, c'est sur leurs amours, leurs difficultés, leurs réussites, leurs drames. Et je crois que c'est un des seuls films où un vrai drame a été mis en scène. Voilà.
Et il a été projeté il n'y a pas très longtemps à la Cinémathèque pendant une rétrospective consacrée à votre œuvre, Pascal Thomas. Et je crois que toute la salle a pleuré et applaudi. C'est vraiment un film effectivement très fin, très subtil. Alors je continue la liste. Mon titre préféré de vous, celle qu'on n'a pas eue, 1981.
Oui, c'est pour nous.
C'est très beau. Oui.
C'est pour nous.
Mais c'est peut-être que c'est ce qu'il y a de plus grand dans la vie d'un homme. Ouais. Et puis Les maris, les femmes, les amants, 1989, qui est sans doute votre plus grand succès, non? Ah non, il y a Les Zozo quand même.
Non, il y a Les Zozo, Pleure pas la bouche pleine, et puis d'Agatha Christie après.
Ouais. Oui. Le dilettante avec Catherine Froh en 99.
La dilettante.
Mais au départ, ça devait être le.
Oui, oui. Et en même temps, ce qui arrivait à ce garçon était moins intéressant que si ça pouvait arriver à une femme. En effet, ça lui donne plus de liberté, plus de caractère, et plus d'épaisseur.
Mais oui.
Un dilettante, bon, les types sont des feignants, ils ne veulent rien faire. Tandis qu'une femme qui décide ça, c'est un caractère.
Oui.
Et ce caractère a été parfaitement réussi par Catherine Froh, qui pour l'occasion, parce qu'elle comprenait pas le mot était un peu pas utilisé, vous savez qu'il n'était qu'au masculin. Dans le dictionnaire du Larousse du 19e, c'est masculin.
Oui.
Donc la dilettante, elle a commencé dilettante à partir de mon film, puisque les dilettantes italiens étaient des amateurs de musique.
Mm-hmm. D'accord? Donc c'est bien sur Radio Classique d'en parler.
Voilà, amateurs de musique. Donc, il fallait définir le personnage, et elle me demandait sa psychologie. Je suis désolé, je suis né avant Freud, je peux pas vous dire la psychologie, mais par contre, je peux vous dire la façon dont elle parle, etc., et dont elle marche, dont elle s'habille, et je lui ai fait écouter des enregistrements de Louise de Villemorin, qui a été la dilettante, exemplaire, une des femmes
bien sûr,
qui m'a le plus amusé.
Très brillante.
J'étais bienveillante, qui me recevait amusé dans son salon bleu. Et même un jour, Malraux devait venir. Alors moi, j'attendais Malraux. Il a poussé la porte, il a passé la tête, et il est reparti.
Il s'est dit, je vais la laisser tranquille.
C'est tout ce que j'ai vu de Malraux. Cela dit, mon ami Caviglioli, je l'étais un peu plus long, avait fait une interview de Malraux. Il inventait beaucoup. Il faisait des papiers bidons, mais très bien. Et Malraux, un jour, le papier paraît dans l'Observateur. Malraux appelle Serge Lafaury, qui était un des fondateurs de l'Observateur, et lui dit, ah, c'est un des meilleurs entretiens que j'ai eu, etc. J'aimerais bien rencontrer votre journaliste.
Mais cela dit, vous avez refait la même chose avec Nabokov, quand vous l'avez rencontré pour l'interviewer au Montreux Palace, et où vous avez perdu l'enregistrement.
Oui, dernier étage. C'est que c'était un ces gros appareils. Je suis un maladroit. Donc il a été très adorable. Sa femme aussi délicieuse. Donc j'ai passé vraiment toute une après-midi avec lui. J'ai même fait des enregistrements sur un télésiège. Enfin bon, je changeais les bobines. Arrivé à l'hôtel, plus rien.
Et donc vous avez tout réécrit.
Donc évidemment, quand vous savez qu'il y a une machine qui enregistre, vous faites pas trop attention. Donc je me suis rappelé, j'ai refait l'article qui est passé, et beaucoup j'ai appris et beaucoup plus tard j'ai appris que Nabokov ne faisait plus d'interviews d'entretiens que s'il posait les questions, s'il écrivait les questions et si on, oui. on lui écrivait les il écrivait les réponses oui. et si on lui écrivait les questions.
C'est ce qu'il a fait avec Pivot à apostrophe.
Oui, voilà, ce qu'il a fait avec Pivot. Et ben à mon avis ça vient de cette mésaventure
oui. puisque c'est à cause de vous. Vous l'avez dégoûté des journalistes à tout jamais.
Non, c'est grâce à moi. Alors.
Oui. Je continue la liste de vos films les plus célèbres. Le Grand Appartement en 2006. Mercredi Folle Journée avec Vincent Lindon en 2001. Et puis, il y a En Salle, en ce moment, qui est sorti le 17 janvier, Le Voyage en Pyjama, votre 20e film. Et en même temps, vous publiez Souvenirs en pagaille, un recueil d'anecdotes recueillies bien malgré vous, par Alain Kruger et Jean-Olé Laprune, chez Séguier. Ce livre, qui est vraiment très réussi et très allègre, une déclaration d'amour au cinéma provincial, au cinéma rural, poétique, littéraire, eh bien, ce livre a obtenu le prix Transfuge du meilleur livre de cinéma de l'année, alors que l'année commence, et trouve que c'est assez beau.
Oui, c'est magnifique.
Oui.
Il faut donner des.
On est désolé pour tous les autres gens qui écriront sur le cinéma cette année, parce qu'ils n'auront pas ce prix.
Bah oui, il faut donner les prix de l'année, les prix au début de l'année.
Alors, on va écouter tout de suite votre premier choix musical, qui est également très esthétique, puisque c'est la Bacchanas Brasileiras numéro 5 d'Hector Villa-Lobos, chantée par la soprano Barbara Hannigan.
Magnifique.
En 2016.
Mais, très belle.
Vous approuvez votre propre choix.
Oui. Non, mais en plus, si jamais les gens peuvent regarder l'enregistrement, elle est magnifique, des épaules de grandes chanteuses, et plus encore.
Thank you.
Frédéric Beck BD sur Radio Classique.
Je suis toujours en conversation chez La Pérouse avec Pascal Thomas sur Radio Classique pour deux actualités. Pour le prix d'un, eh bien, il y a le livre chez Séguier, Souvenirs en pagaille, recueilli par Alain Kruger et Jean-Olé Laprune. Et puis, il y a Le Voyage en pyjama, qui est dans toutes les bonnes salles de cinéma. Quel est le sujet que vous préférez aborder en premier, le film ou le livre? Parce que j'ai des questions sur les deux.
Non, choisissez.
Je ne choisis pas, mais vous avez la réputation d'être impossible à interviewer, je le constate encore, car peut-être vous êtes vous-même journaliste au départ. C'est pour ça, dans les années 60, vous avez travaillé à François, à Elle et à Lui. Et comme vous savez ce que c'est que ce métier.
François.
Et donc, comme vous connaissez ce métier, vous n'aimez pas tellement être celui qui répond aux questions.
Non. Quand j'ai fait le film, il fallait faire de la presse et j'avais vu tellement, comme journaliste, des gens qui étaient journalistes, etc., qui tout d'un coup ils devenaient romanciers, cinéastes ou autre chose, se gonfler d'importance. J'avais dit à la productrice, non, je veux pas surtout faire d'interview pour les journaux ou ailleurs. Donc le film était sorti sans presse ni télévision. Et le premier à en avoir parlé, parce qu'il aimait le film, était Pierre Tchernia. Mais je pense pas, je suis pas bavard, je suis pas difficile, je suis pas ma coquette, au contraire. Mais je sais pas pourquoi vous me dites ça.
Non, je sais pas non plus. Vous voyez,
personne ne le sait.
Vous prouvez par votre réponse que j'ai raison. Que vous êtes compliqué à interviewer parce que vous êtes une forte tête. Voilà. Et nous, moi, ce que je voudrais, c'est que vous m'obéissiez et que vous disiez simplement, Frédéric, comme tu es brillant. Alors, maintenant, on continue.
Non, mais tu n'es pas brillant. Plus que brillant. C'est un soleil.
Merci. Voilà, ça y est. Alors, c'est votre premier livre, Pascal Thomas, Souvenirs en pagaille chez Séguier. C'est votre premier livre. Et pourtant, vous avez commencé un premier roman qui devait s'intituler. Alors j'ai trouvé plusieurs titres dans votre ce que j'ai pu enquêter. Hein.
Oui.
Il y avait plusieurs titres. Il y avait En attendant Sheila.
Oui.
Les garçons pleurent aussi.
C'était le deuxième titre. Oui.
Et Odile s'en va.
Le troisième titre.
Voilà. Et donc vous avez, à part le titre, vous avez écrit beaucoup de pages.
Il y avait quelques. J'avais des difficultés pour les descriptions. Donc c'était bon des souvenirs, des choses, des souvenirs romancés, et je voulais que les descriptions soient aussi puissantes et riches que celles de Flaubert, ou délicates comme celles de Chardon. Évidemment, je n'y arrivais pas.
C'est ça et, le problème. On met la barre trop haut.
Ouais, trop, beaucoup trop haut. Et un jour, je me trouve chez Claude Berry à l'interviewer parce que je faisais une série sur les cinéastes pour le journal Lui. Et sur sa table Knoll, une longue table Knoll, il y avait plein de scénarios. Des scénarios, j'en avais vu. Mais j'en prends même, j'avais jamais fait cette remarque. C'est-à-dire que vous avez intérieur jour, la Pérouse, oui. Un tel interview un tel, et hop, le dialogue. Et je dis à Claude, disons, c'est bien, les scénarios, on n'a pas à faire de description. Il dit, bah, écris, prends un épisode de ton récit, et puis on en fait un court-métrage. Ce que j'ai fait avec... C'était ma secrétaire à l'époque était une fille qui s'appelait Charlotte Julien, une vous vous rappelez une genre de province, et donc je fais ça, on le tape, je le fais taper, ça va chez Claude Berry, et quelques mois plus tard il m'appelle en disant Pascal, on a eu l'avance la plus importante qu'on a jamais donné à un scénario de court métrage, donc il s'est agi de faire le film très vite parce qu'il était pressé. Moi je partais aux États-Unis faire une série d'interviews, bon là Gene Kelly, des gens comme ça, donc une équipe était là sur le. J'ai choisi des comédiens, des élèves au lycée de Montargis, et arrive sur le plateau. Bon, le pied de caméra sur le pied. Oui, Claude avait dit il faut tourner absolument en Super 16. Je sais pas ce que c'était évidemment. et sur le pied de caméra, on pose une tête ronde forte, une espèce de boule en aluminium avec des manches, et je dis ah c'est bizarre une caméra Super 16. Le regard de l'opérateur Jean Chiabot et son assistant Dominique le rigoleur, ça a été quelque chose.
Oui, donc
sur quoi on est tombé.
On vous a respecté immédiatement.
Oui. Non, mais ce qui est, j'avais des idées très simples pour les places de caméra, etc. Et puis j'étais attentif. Je ne savais pas que c'était possible, mais je pouvais mettre les acteurs en état de bien jouer. Voilà.
Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous les mettez toujours à l'aise. Le dernier film, Le Voyage en pyjama, est vraiment très réussi, on va en parler. Vous avez présidé longtemps, alors bien plus tard, la quinzaine des réalisateurs à Cannes,
oui.
Ainsi que la commission d'avance sur recette.
Oui.
Vos films donc ont fait l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque. Bref, est-ce que vous qui êtes toute votre vie anti-système, vous n'êtes pas devenu une institution aujourd'hui?
Ah, je crois pas. Hein. Je crois que tout le monde a été étonné de ces... J'accepte ces postes. Ça m'intéressait parce que l'année où je me choisis, c'est que vous avez fait l'avance au premier film. Et pour moi, une cinématographie est forte si toutes les générations travaillent. Si vous prenez le cinéma américain des années 50, ou italien des années 50, ou un peu avant, le français pareil, toutes les générations travaillent. Chez les Américains, vous avez des gens qui ont travaillé avec Cecil Ben Mille, ou qui vont devenir Billy Wilder, Black Edwards, etc. Pour les Français, on peut dire la même chose, avec d'autres metteurs en scène. Donc j'avais suggéré de faire de l'accord pour cette avance au premier film, on va faire l'avance au dernier film.
Oui.
Et comment tu peux savoir que c'est le dernier film? On fait comme les chanteurs, c'est la dernière tournée, puis on commence l'année suivante. Voilà.
Oui.
Donc finalement, on a pu passer ça, et j'ai fait passer des tas de gens, Rossier, Piala et d'autres. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, de choisir, et puis ou des débutantes, il y avait une débutante qui avait été refusée par tout le monde, ça ne me déplaisait pas de la pousser, parce que je la trouvais intéressante, singulière, et Rosier, qui était à mes côtés, était d'accord avec moi.
Donc, c'était qui?
Françou Prenant.
Ah, d'accord. Bon.
Une fille Françou Prenant, très 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 singulière, amusante, et puis bon.
Voilà. Non, mais cela dit, c'est vrai que c'est bon. Vous êtes aujourd'hui quand même considéré comme un auteur, et peut-être c'est ça qui vous embête le plus, parce que vous étiez un rebelle. Votre film, Le Voyage en pyjama, qui est toujours en salle, est un film léger, aérien, frais. C'est un film jeune, en fait. C'est ça qui est paradoxal. Je ne vais pas dire votre âge. Vous êtes né en 44. Les mathématiciens qui nous écoutent feront le calcul. Mais enfin, c'est un chiffre qui commence par un 8 et se termine par un 0. Commençons par le commencement. Le Voyage en pyjama. J'ai failli jouer le rôle principal, celui d'un professeur de français qui part en vadrouille.
Oui.
Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi, mais Alexandre Laforie qui est excellent?
Mais c'est pas vous parce que vous ne pouviez pas.
Je m'en souviens pas.
Ah ben, je m'en souviens très bien. Je vous ai regretté, d'ailleurs. Bon. Et on vous a même vu dans un autre film.
Ah bon ?
En Marié.
Ah oui, c'est votre film précédent. Oui, c'est vrai que je jouais un type qui quitte sa femme pour une autre. C'est vraiment quelque chose qui ne m'arrivera jamais.
Ça, le jour de son mariage.
Oui, jamais ça ne m'arrivera une chose pareille. Bon, en tout cas, donc vous dites, parce que vous êtes très élégant, que c'est parce que je n'étais pas libre, que je n'ai pas joué ce rôle, mais pas
mais
du
c'est
tout.
C'est pas une question c'est d'élégance, pas ça. C'est la vérité.
Non, la vérité, c'est que vous avez essayé de financer le film sur mon nom et que vous n'avez pas trouvé un centime. C'est
non,
ça la vérité. Non.
Ouais, non. Sur votre nom, on trouvait des fortunes.
Alors, Alain Kruger vient d'arriver, Alain Kruger qui a recueilli vos souvenirs. Mais viens, Alain, viens t'asseoir.
Avec courage.
Donc, vous avez dû vous y mettre à deux pour arriver à lui tirer les vers du nez à Pascal Thomas ?
Si, c'était que deux. C'est-à-dire, on a eu l'aide souveraine de Nathalie Laforie,
qui est la compagne et la scénariste.
Et de Luc Leclerc du Sablon.
Et de Luc Leclerc du Sablon dans la dernière... course finale. Oui.
Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'interviewer Pascal Thomas ? Je lui ai posé la question, et il disait non, pas du tout. Et puis après, il m'engueulait. Mais c'est quoi ? Il est paresseux ? Il est dispersé ? Il est dilettante ?
Dilettante, forcément. C'est sa marque de fabrique. Il est perfectionniste, je pense. Parce que, en fin de compte, il a besoin de se reconnaître et il ne se reconnaît quasiment jamais. Donc, il cherche, il tâtonne, il hésite,
il relit,
il corrige.
Il
a relu les 80 premières pages, je pense, et corrigé. Ouais, donc, cette correction que nous avons nous-mêmes...
Corrigé aussi.
Corrigé. Oui, oui. je pense 8 ou 10 fois.
8 ou 10 fois, d'accord.
Il choisit le reste.
Donc, avec Jean-Louis Laprune, je crois que... On peut faire, et Nathalie Laforie, faire figure de héros.
Oui, vous devriez avoir une médaille, c'est vrai. Enfin bon, là, on n'était pas sur le livre pour l'instant, on parle du voyage en pyjama. J'y reviens donc. Il est en pyjama, car il accompagne sa femme, Barbara Schulz, à l'aéroport, où elle s'envole avec son amant, Christian Vadim. Et vous avez une théorie sur le pyjama. Vous dites que la vie doit être une longue, grasse matinée.
Voilà, j'en dirai pas plus. C'est formulé, c'est dit, c'est exactement ça.
Mais pourtant, vous n'êtes pas en pyjama, vous portez une veste de tweed, vous êtes très élégant.
Non, mais c'est chiffonnelli.
Oui.
Le pyjama chiffonnelli.
Le pyjama de luxe. Oui. Donc, le voyage en pyjama est un road movie, en vélo, scooter, péniche et train. Quelque part entre le fanfaron et les valseuses. Est-ce que je me trompe de référence ?
Les valseuses ?
Les valseuses, c'est un road movie, oui. Ils se baladent dans une voiture. Ah là, oui. Vous, il n'y a pas de voiture.
Pour moi, c'est pas le mot, je n'utilise pas déjà. Mais oui, c'est une balade et des rencontres avec des femmes qu'il a pu connaître. Je le vois pas en road movie, le film.
Non.
Il y a des lieux différents, en effet. On a tourné dans la Sarthe, que je connaissais pas parce que je filmais tous mes films dans le Poitou. Mais qui était découvert des paysages absolument délicieux.
C'est magnifique.
Une campagne qui restait la campagne, même que dont parle quelqu'un comme Gaston Roupnel, que vous connaissez bien, qui a écrit une histoire de la campagne française, que je conseille à tout le monde, et surtout aux professeurs aujourd'hui, et aux proviseurs, mettez ce livre depuis la sixième pour que les enfants découvrent quelque chose d'important dans leur vie, dans les cadres. Et donc.
Non, mais c'est vrai que vous êtes un cinéaste rural, vous le revendiquez. Oui. C'est drôle parce que dès votre premier film, vous publiez un long abécédaire qui est dans le livre. Votre méthode d'écriture, et vous publiez ça en 72, toute votre vie, vous avez appliqué cette méthode, c'est-à-dire filmer la campagne, avec des musiques composées pour le film, laisser les acteurs libres de leur mouvement, qu'il y ait beaucoup d'enfants, qu'il y ait beaucoup d'esprit, qu'il y ait des dialogues écrits, mais que si les acteurs les changent, c'est pas grave.
Il y a toutes les générations.
Oui, mais vous aviez presque comme Lars von Trier avec le dogme, vous aviez établi des règles du jeu que vous avez respectées pendant tous vos films,
tout le temps,
20 films.
Oui. Mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des grands-mères. On a même, dans un des films, une femme jouée par Jeanne Pérez, parce que Claude Berry me demandait tout le temps, c'était l'époque, que déshabille ton actrice, des scènes nues, etc. Mais moi, je voulais pas. Bon, elle avait 16 ans, ça me déplaisait de lui demander des choses pareilles. Et un jour, j'appelle Claude en lui disant, ça y est, il y a un nu intégral dans le film. Ah bon, ouais, il se rue à... voir la projection avec Fechter, enfin, tous les gens de son bureau. Et cette fameuse, c'était qui? C'était Jeanne Pérez, qui jouait la maîtresse morte d'un personnage du film joué par Jean Carmet. Et vous savez, il était menuisier. Il est menuisier chez moi, comme ailleurs. Il met les gens dans le cercueil. Donc, j'avais demandé à Jeanne Pérez, qui avait quelque chose comme, je sais pas, plus de 80 ans, de faire cette scène nue. Elle me dit, mais c'est la première fois, c'est ma première scène nue, etc. Écoutez, pourquoi pas? Elle dit, il faut que je vous montre. Elle me montre, elle était magnifique. Moi, je trouve toutes les femmes magnifiques. À partir du moment où elles sont adultes, jusqu'à, quelle que soit la forme, les rondeurs, la maigreur, la taille, elles sont belles. Donc, je la trouve très belle, je lui dis, elle est très contente. Donc, elle est là, quand Claude Berry
a vu ça,
voit le film, c'est le con.
Il ne vous a plus jamais demandé de scène de nu. Oui.
Non, mais ça me déplaît. J'ai pas envie d'en faire.
Ce film, Le Voyage en pyjama, je le conseille vraiment aux gens qui nous écoutent. Dépêchez-vous d'aller le voir parce que c'est un film mélancolique, c'est un film merveilleux, de tendresse, de drôlerie et d'originalité qui reflète bien tout le ton de l'œuvre de Pascal Thomas, qui aurait dû d'ailleurs être italien. Vous êtes, par accident, vous êtes né dans le Poitou, mais vous auriez dû être italien, parce que c'est du cinéma italien de la grande époque. Je ne vous laisse pas répondre ni commenter, et on passe à votre deuxième choix musical, car je suis le patron ici, c'est Scarlatti, qui est également un grand compositeur léger.
Très léger,
c'est comme
très
vous. Drôle. Et c'est une sonate en ré majeur, interprétée par Alexandre Tarot, ouais, au piano en 2010. Thank you. merci Pascal Thomas pour ce choix Scarlatti. Moi, je suis, j'aime l'intelligence pianistique de Scarlatti.
La drôlerie.
Oui, c'est drôle. Oui. Oui. On revient pour parler de votre œuvre, Pascal. Juste
drôle
après,
et fantaisiste.
Voilà, juste après quelques messages publicitaires, et vous avez été publicitaire pendant longtemps.
Oui.
Ce n'est pas un défaut.
Non, absolument. Non, non. Le milieu du cinéma me.
Oui.
M'agaçait. Bon, il y avait trop de prétentions, trop d'ignorance, d'inculture. Donc, je ne dis pas que dans la publicité, c'est plus savant, mais au moins, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai dû faire un millier de films publicitaires. Je prenais tout, hein, tout ce qu'on me proposait. Il y en a des gens comme Chatillez, choisissaient leurs films. Bon, ils avaient bien sûr le droit de faire. Moi, ça venait, même avec des films avec Jackie Sardou pour les prothèses dentaires, tout ça, je prenais. Et surtout, ça me permettait de satisfaire un autre goût, je ne vais pas dire passion, parce que le mot m'agace, notre goût, celui de la bibliophilie.
Oui.
J'achetais des manuscrits d'auteurs que j'aimais. En général, c'était des premiers jets. Il y avait de Davidge, de Feydeau, de Maupassant, et même de Borges. D'ailleurs, il y a une anecdote amusante, je pense, c'est que je faisais un reportage, un film publicitaire à Miami sur la crème solaire, donc il y avait les mannequins devant moi, etc. Et avant de quitter Paris, j'avais été chez Sotheby, j'avais appris qu'ils vendaient un manuscrit de Borges, L'homme au coin de mur rose, et L'homme de la Shkina Rosada. Donc j'avais pris rendez-vous téléphonique, il y avait le téléphone là qui était sur la plage, les types m'appellent, on arrête le tout, je fais l'enchère au téléphone, j'ai le manuscrit. Bon, c'est une drôlerie quand même.
Oui, entouré tout ce mélange. Entouré de mannequins en bikini.
En bikini avec de la crème solaire. Épilogue, c'est que quand j'ai dû revendre, parce qu'évidemment le cinéma ruine ses auteurs et ses producteurs, quand je l'ai revendu à Buenos Aires, il y avait la manchette de l'équivalent du Buenos Aires Times, du Parisien, il y avait en manchette L'homme au coin de mur rose est à vendre. Vous imaginez ça, un manuscrit d'un auteur français et que le Parisien ou François...
Oui, ce ne serait pas dans la première page.
Ce ne serait pas dans la première page.
Donc ces fameux messages publicitaires et on se retrouve juste après.
Demain à 20h, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vous propose une grande soirée symphonique sous la direction de Kazuki Yamada. Au programme, la symphonie numéro 5 de Schubert et la première symphonie de Gounod. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
Blackmore, 1925. Sur cette île coupée du monde, un culte maléfique sévirait dans l'ombre. Des disparitions sèment la terreur. Commence alors une course contre la montre diabolique pour la Française Lorraine Chappelle, une jeune criminologue, et le Britannique Edward Pierce, spécialiste des sciences occultes. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable devra démêler le vrai du faux pour percer le mystère des disparus de Blackmore. Les disparus de Blackmore, le nouveau thriller d'Henri Lovenbruck, est disponible aux éditions Pocket.
Richard Galliano, Madre Perla, son nouvel album... S'il est l'interprète virtuose de Bach, Mozart, Piazzolla ou Michel Legrand, Galliano est avant tout un formidable compositeur. Madre Perla, Richard Galliano et le South Czech Philharmonic sous la direction de Jan Dalisch. Un album disponible dès maintenant. En concert Salgavo samedi 27 janvier.
La scène musicale présente Gisèle, la nouvelle création de Marie-Claude Pietragala et Julien de Rouault. Puisant leur récit dans les violences faites aux femmes, les chorégraphes offrent une nouvelle interprétation du célèbre ballet classique, accompagné de 15 danseurs. Un spectacle à l'énergie combative. Gisèle, du 14 au 17 mars, réservation sur lascenemusicale.com.
Le génie de Mozart est éclatant dans Così fan tutte. Les ensembles vocaux de ces 6 personnages en quête d'amour comptent parmi ses plus belles œuvres. Christophe Rousset dirige les talents lyriques, le chœur Stella Maris et d'émouvantes voix mozartiennes. Ensemble, ils nous invitent à redécouvrir un chef-d'œuvre puissant dans une mise en scène contemporaine de Dmitri Tcherniakov, où le jeu devient une question existentielle. Così fan tutte, au Théâtre du Châtelet, du 2 au 22 février. Renseignements sur châtelet.com.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. Le tour de la mer Baltique dans les lumières du printemps, ça fait rêver. Avec Radio Classique, je vous invite justement sur un yacht ponant au design raffiné de Copenhague à Stockholm, en passant par Gdansk ou Helsinki, et en naviguant à travers les merveilles de la musique russe, balte, polonaise, avec les plus grands musiciens venus de ces pays de légendes et de rêves.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
10 ans déjà que le Quatuor à Rhodes s'est imposé sur les scènes d'Europe, des États-Unis ou du Japon. Qu'il a reçu les plus hautes récompenses de prestigieux concours internationaux. Que la critique salue leur talent et leur rare énergie. Le Quatuor à Rhodes sera dans quelques jours à Paris pour interpréter Tchaïkovski avec l'éclatant Souvenir de Florence et Haydn, les Quatuor à cordes opus 76, où le compositeur est à l'apogée de sa maîtrise. De Vienne à Florence, par le Quatuor à Rhodes, samedi 3 février à 16h, au Théâtre de la Ville Les Abbesses, à Paris.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Et je suis toujours en compagnie de Pascal Thomas et d'Alain Kruger qui nous a rejoints et qui a recueilli les anecdotes de souvenirs en pagaille.
Avec courage.
Avec courage et patience.
Beaucoup de patience.
Et abnégation. Et c'est publié aux éditions Séguier. Et dans ce livre, qui est fait de chapitres courts, très énergiques, il n'y a que des anecdotes marrantes, intéressantes. Toutes vos rencontres, vous avez connu à peu près tout ce qui était possible de rencontrer, même les Beatles et les Stones, vous les avez interviewés quand vous étiez journaliste. Puis ensuite, vous avez fait une œuvre. Je sais que vous n'aimez pas le mot œuvre. Bon, alors je dirais que Claude Berry a résumé votre travail en disant que vous étiez un piala rigolo. Est-ce que vous, vous prenez ce compliment?
Piala, c'est un vrai compliment. Piala, il est sombre. Il est juste sur les personnages. Oui. Et c'est vrai que je m'amuse plus que Piala ne s'amusait même dans la vie.
Les titres de vos films, les premiers, étaient souvent imposés par les producteurs. Le chaud lapin, pleure pas la bouche pleine. Vous aviez des titres plus littéraires et puis vous disiez non, il faut que ça vende, quoi. Il faut que ça marche. Et finalement, vous avez eu énormément de succès très tôt grâce à ces titres.
Oui. Non, mais c'était moins vigoureux que ça. Mais j'étais d'accord avec eux. Vous voyez, pour les oiseaux, c'était Frédéric et François sur plusieurs coups à la fois. Et j'ai un avis écrivain, d'ailleurs, Jean-Jacques Vincent, qui maintenant n'est plus là, mais qui publiait chez Julliard, qui me dit, il y a un mot qui est très bien, zozo, etc. Il avait entendu ça dans une émission de Dumayet, c'était Malraux qui avait inventé ce mot. Et c'était Cocteau qui avait inventé le mot, et cité par Cocteau ou l'inverse, c'est pas grave. Et c'est vrai que le zozo, c'était comme ils étaient ni connus, pas du tout. Il y avait pas d'acteurs de vedette. L'histoire ressemblait pas à ce qui se faisait à ce moment-là. J'étais retourné à François et j'avais vu un ami qui était allé travailler à l'imprimerie. Et j'ai dit, mais tu mets zozo sur une page n'importe comment, etc. Parce que pour le vendre, j'avais dû dire que ça serait remémorisé plus facilement. Et j'avais montré à Albina, toc, 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 il retrouve le mot, qui décide que
c'était un mot très visuel et du coup, ça a été un énorme succès.
Et pleure pas la bouche pleine. On devait faire un film qui s'est arrêté au bout de 4 semaines. J'aimais pas le tourner. Puis l'équipe était pénible. Et Claude Berry, parce qu'il se tournait l'hiver. Et l'été, on avait fait 4 semaines en hiver, on allait pour faire des repérages d'été, et en revenant vers Paris, Claude me demande, et j'étais parti avec une amie, Claude me demande, qu'est-ce que tu veux faire comme troisième film? Et je lui raconte l'histoire, une histoire d'une formation, enfin d'une éducation sentimentale d'une jeune fille. Bon, il dit au chauffeur, arrête la voiture là, tu reviens avec 25-30 pages, ça ne sera pas ton troisième film, ça sera ton deuxième film. Ce que j'écris en 20 jours, en 3 jours, et le titre c'était « Promenade champêtre avec une jeune fille de bonne famille dont les rougeurs délicates trahissent légèrement les mois profonds », qui était juste, mais peut-être un peu long.
Mais il y a des très bons titres longs. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, de Woody Allen, c'est un très très bon titre.
Excellent. Mais là, ils avaient trouvé ça. Ils m'avaient proposé une réplique du film qui était « Pleure pas la bouche ». On pleure pas la bouche pleine, qui est une phrase que j'entendais souvent dans le Poitou.
C'est pas Jean Carmet qui a improvisé ça, je croyais.
Non, il a improvisé autre chose, donc.
Non, on
arrivait dans une petite.
C'est une émission littéraire, monsieur.
Oui. Non, mais la littérature, on peut. Les mots sont là, justement, puisqu'elle est littéraire. Carmet adorait le dimanche. Il s'aimait aller se balader dans les villages, etc. Il se faisait même inviter à déjeuner par les paysans. Un jour, on se trouve à Moncontour. Là, il y a un type qui est assis. Là, ça va être très littéraire. Est assis sur son banc, un vieil homme. Et bon, il a une flatulence, enfin énorme, considérable. Et il dit, bon, de l'âge, c'est pas ce que j'ai là-dedans. Carmer, entendant cette phrase, me supplie de l'intégrer au film. Ce qu'on a fait, à la fin des repas, voilà. Et c'est qu'Aldi n'a pas voulu être en reste. Il a dit, tu me l'as retiré de la bouche.
Voilà. Oui, parce que, alors, faut dire que vous avez tourné avec, bien sûr, Carmet, Daniel Secaldi, 8 films, ouais. Et puis votre acteur fétiche, Bernard Ménez, dont vous dites dans le livre, il fait rire sans avoir besoin de parler.
Oui.
Il avait quelque chose de comique instantané.
Le Scapinesque.
Oui.
Scapin, c'est ça. Quand Scapin, j'ai un des souvenirs de théâtre d'enfance, Hirsch, rentre en scène,
oui.
Les gens éclatent de rire.
Oui, ouais. Oui.
Le côté, l'acteur comique doit faire rire par son apparence, par ses mouvements. Et il y a dans ce film un garçon, Buys, qui tourne très peu, qui joue le domestique de Danny Dupéret, qui est une drôlerie infinie.
Ah oui,
on le voit, Henri.
Dans le dernier. Vous parlez du voyage en pyjama. Oui, tout à fait. Alors, Alain Kruger, donc, ça a dû être très compliqué d'arriver à faire ce livre. Mais pourquoi cet amour de Pascal Thomas? Est-ce que c'est la poésie, la liberté, la nostalgie, ce charme frivole et tendre?
Moi, c'est pas l'argent.
Non, c'est pas l'argent, ni pour moi, ni pour Jean-Louis Laprune d'ailleurs, mais je crois que le mot que je préfère dans la langue française, c'est fantaisie. Dans tout ce qui va avec, de la poésie à la musique, même chez Schumann d'ailleurs, mais Pascal Thomas, pour moi, c'est ça, c'est une incarnation française de la fantaisie, avec cette liberté, cette acidité qui est joyeuse, tout en étant quand même mélancolique. Donc,
on avait à une époque, je crois, c'est Télérama qui avait essayé de l'embringuer dans une école de cinéma qui s'appelait Le Nouveau Naturel, avec Jacques Rosier, avec d'autres. Ça vous fait sourire, Pascal, vous n'avez jamais voulu d'étiquette. Mais c'était pas si mal de dire Le Nouveau Naturel.
Mais comme dirait Pascal Thomas, comment le naturel peut-il être nouveau?
En tout cas, c'est vrai, vous suivez un esprit français, une tradition française, ouais, qui est celle du vaudeville, du marivaudage, ouais, du libertinage, et il y a ça dans
tout. J'ai eu un professeur en sixième qui a commencé, c'était pas du tout le programme, qui nous a lu des pièces de Feydeau, de Courdeline, de Labiche. On demande des culottières, vous entendez ça en sixième, j'allais le voir, il y en a d'autres, etc. Bon, et... Donc c'est ce que j'aime, c'est la fantaisie, les portraits, la précision du langage. C'est pour ça que quand je me suis retrouvé en philo, il y avait rien de tout ça, il y avait des idées fumeuses. En oui. plus, enseigné par un prof très très fumeux qui s'appelait Clavel.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Oui.
Et j'avais demandé à changer de.
Oui, c'est vrai, vous racontez ça dans le livre, c'est très savoureux.
J'ai réussi à convaincre le proviseur.
Et d'ailleurs, dans Le Voyage en pyjama, il y a un personnage qui dit « La philosophie, c'est creux, c'est bavard et ne veut absolument rien dire. »
Ouais. Voilà. Il dit autre chose.
Il dit autre chose, oui. Il dit quoi?
Je ne me rappelle plus.
Ah, c'est pas la phrase de Halley sur Mallarmé, c'est intraduisible, même en français.
Oui, c'est ça.
C'est très beau. On a Guillaume Apollinaire en ligne.
Le pont ira beaucoup le latin, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine, miel la nuit sonne l'heure, les jours s'en vont de demain.
Pourquoi je vous fais entendre ça? D'abord, vous en parlez dans le livre. C'est donc le vrai Guillaume Apollinaire qui lit Le Pont Mirabeau en 1913, c'est-à-dire 5 ans avant sa mort. Et c'est ce ton, cette voix, cet accent qu'il n'y a plus dans le cinéma aujourd'hui.
Nulle part.
Et cette manière, cette élocution presque surjouée, théâtrale. C'est ça qui vous plaît?
J'ai écouté ça, je m'y attendais pas. Les larmes me sont venues aux yeux.
Oui.
Il y a derrière, encore maintenant, en en parlant, en l'évoquant. C'est bouleversant pour moi. C'est, en plus, la voix d'Apollinaire, qui est quand même le poète que j'ai préféré. Et même, la chanson du film, Renard m'avait donné une musique, il fallait des paroles, j'ai choisi des vers d'Apollinaire pour s'accorder à la musique. Mais, qui s'accorde très bien. Mais c'est vrai qu'Apollinaire, pour moi, c'est aussi un grand regret. Parce que, s'il n'était pas mort si tôt, c'est lui qui a trouvé le mot surréalisme. Hein.
Oui.
Il aurait été le maître du surréalisme. Oui. Et ça aurait été un surréalisme un peu moins, des plus légers. Ça n'était pas quelque chose de terrorisant, comme ça l'était avec un type comme Breton qui excluait, qui interdisait,
qui faisait des manifestes.
Qui virait les homosexuels du groupe. Enfin bon, c'est un type épouvantable, Breton.
Là, on entend une musique de Reinhard Wagner, qui est votre compositeur fétiche pour beaucoup de vos films. Mais c'est pas un de vos films, c'est la générique de fin du film Faubourg 36. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce film de Christophe Baratier?
Parce que vous m'avez demandé du jazz, c'est pas ça? Voilà, donc chercher du jazz. Bon, il y a je pense qu'il y en aura un autre. Mais donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas Reinhard Wagner qui, en effet, a composé un morceau de jazz très plaisant. Voilà.
On l'écoute un tout petit peu. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un jeu dans mon émission qui s'intitule « Devine tes citations ». Je vous lis des phrases de vous et dans plusieurs de vos films, et vous devez me dire où vous avez écrit ceci. « Les oiseaux ne sont pas des grands maulnes ».
Ça, c'est dans VO.
C'est dans le journal VO, bravo. VO, oui. 1973, dans votre fameux abécédaire. Il n'a pas besoin de développer, hein. « Les oiseaux ne sont pas des grands maulnes », ce ne sont pas des grands romantiques.
Non, des petits maulnes.
Voilà. Une autre phrase. Dites oui, oui. Dites non, non. Je me suis toujours demandé si la bouche d'une femme est plus jolie quand elle dit oui ou quand elle dit non.
Ça, c'est Alexandre Laforie qui dit à la jeune fille qu'il vient de rencontrer, qui va peut-être essayer de séduire. Sur le quai d'une gare, il lui pose cette question-là.
Et c'est très charmant. Et, voilà. Et c'est dans Le Voyage en Pyjama, qui est toujours en salle. Autre phrase. Il m'aimait tellement qu'il me laissait régler l'addition au restaurant.
Oui, ça
c'est dans un excellent livre qui est en librairie.
Oui.
Souvenirs en pagaille.
Oui.
Et c'est sur Jean-Pierre Mocky.
Ah oui, Mocky. Ah ouais. Ça c'est une ironie parce que Mocky, quand il a vu mon premier film, j'avais déjà interviewé, on s'entendait bien. Et il me dit tu vas pas rester metteur en scène de courts métrages ou journaliste, tu vas faire des longs métrages, mais tu seras aussi producteur. J'ai un conseil à te donner. Bon. Et voilà, sur les films, il faut nourrir les gens. Et bon, si tu leur mets tel plat, de la viande avec ceci, etc., ça te fait il faut faire 3 entrées, 10 entrées. Si tu leur donnes des plats plus délicats, etc., il faut faire tant d'entrées. Tous aux œufs durs. C'est ça, le conseil de production de Mocky, c'était
tous
ça.
Tous aux œufs durs. Une autre phrase de vous. Pourquoi on n'a pas gardé mademoiselle et appelé les garçons mademoiseau?
Damoiseau.
C'est dans Le Voyage en Pyjama.
Oui, c'est joué par une délicieuse actrice, jeune actrice. C'est la Rotonda. C'est parce que... qu'est-ce qui est dans la scène, on a qui?
Non, mais parce que en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le terme mademoiselle. Et vous dites, non, il suffirait d'avoir un équivalent masculin.
Bien sûr, c'était plus intelligent, intelligent, je sais pas, mais c'est plus juste que de dire madame à tout le monde.
Au théâtre, ça ne se fait pas.
Ah oui, bah,
on ne disait pas en disant Mademoiselle Moreau, Mademoiselle Deneuve.
Oui, ça ne se disait pas maintenant, c'est comment ?
Maintenant, on doit dire Madame.
Maintenant, on doit dire Madame. Pascal, c'est la foi. Thomas, c'est le doute.
Oui.
Et donc, c'est difficile de s'appeler Pascal Thomas. Il faut mélanger les deux.
Au contraire, c'est heureusement que c'est comme ça. De commencer par la foi, par Pascal, et finir par le doute. Ça, c'est, j'ai eu la chance d'avoir cet ordre-là.
J'explique, hein, si vous faites allusion à Blaise Pascal et à Saint Thomas, mais parfois, il faut préciser les choses.
Eh non, pas vos auditeurs.
Non, pas pour les miens.
Attendez.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? T'es toujours aussi con, toi. Oui, je vais même te dire quelque chose. Je suis peut-être un peu plus con qu'avant. Il n'y a pas de raison que je change, parce que tu ne changes pas, toi. Dans quel film ?
Je ne sais pas.
C'est dans un de vos films. Pleure pas la bouche pleine.
Ah bon ?
Oui. Et c'est Carmet qui répond ça. Il se vante d'être encore plus con qu'avant.
Ah oui ?
Bon, vous voyez, voilà.
J'ai encore moins de mémoire qu'avant.
Alors, un autre choix musical de Pascal Thomas. Mais il y a une anecdote à ce propos. C'est Ella Fitzgerald, Mac the Knife. Apparemment, vous étiez invité aux États-Unis et elle a chanté en vous touchant les épaules.
Ouais, en pétrissant les épaules. Oui. Non, c'est parce que c'était le premier film, le film de Christian Marquand, qui connaissait tout le monde. Il avait frété un avion où il y avait beaucoup tous les journalistes d'Angleterre, de France et d'ailleurs, ou des gens comme Ringo Starr, et bon, des vedettes,
Richard Burton,
bon, des gens comme ça. On se retrouve, on a pris l'avion à Londres, on se retrouve à New York, dans un restaurant, etc. Et la Fitzgerald arrive, vient pour chanter. Et donc, le hasard de son déplacement, ou peut-être que j'étais le plus jeune de l'ensemble, donc elle est venue vers moi, me souriant, etc. Et elle m'a mis les mains sur les épaules, chantant Mac the Knife. Voilà.
Et ben, on l'entend tout de suite.
Oh!
Look out there, Bobby Darin, me and you both singing the same song as you. Mama, no, mama, no, mama. Bobby Darin and Louis Armstrong, they made a record. Ooh, what a record of this song. And now Ella and her fellas, we're making a record. What a record.
Oui, c'est vrai, Philippe, notre producteur, me rappelait hors antenne qu'on a reçu ici Jean-Marie Perrier qui a raconté que Ella Fitzgerald a un peu essayé aussi de le caresser, de lui sauter dessus. Donc elle aimait bien les petits jeunes, Ella Fitzgerald.
Il a eu tort de refuser.
Bien sûr.
Moi, je serais précipité.
Il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre, Souvenirs en pagaille. Il y a John Ford qui veut voir le défilé du 14 juillet et vous l'emmenez chez Guerlain. Oui, puis après, il faut le ramener au Claridge tellement il est bourré.
C'est le tavernier hérifiant.
Voilà, qu'il faut le ramener, il faut le border dans son lit. Vous dites que Marcello Mastroianni pensait que vous étiez, vous étiez son réalisateur préféré.
Il a dit, dans une émission suisse.
Vous avez essayé l'opium de Jean Cocteau.
Oui. Bénarès 33.
Aucun effet rien. Sur vous, rien du tout.
Le contraire même. C'est-à-dire que l'opium rend constipe, et moi j'ai eu l'effet contraire.
Ah, merci, mais
j'étais pas fait pour la drogue.
On enchaîne tout de suite.
Oui.
Jean Genet, vous le rencontrez en 68 à la Sorbonne, et il dit des révoltés de 68, ça sent la colle.
Oui, ah, ça c'est formidable.
Et pourquoi ça sent la colle ?
Avec François Gabiglioni, qui était mon meilleur ami, et Jean Marvier, on le voit, il l'entraîne à la Sorbonne, où les gens voient Genet, l'applaudissent, etc. Il lui demande de prendre la parole, et il refuse de prendre la parole. Il insiste beaucoup, il refuse, et il nous demande il nous fait signe de partir, on l'accompagne, on se retrouve dans un grand café qui a disparu, place de la Bastille, et on l'interroge. Mais pourquoi t'as pas parlé, etc. Et il dit, ça sent la colle. Je comprends pas, etc. Et des années plus tard, quelques années plus tard, je lis des souvenirs de Rico Boni, un décorateur de théâtre du 18e, que lorsqu'on est du 17e, 18e, quand on rentrait dans un théâtre, ça sentait la colle. La préciosité de Jean Genet, c'était de dire, ça, plutôt que de dire c'est du théâtre, dire, ça sent la colle.
Ça sent la colle, et ça veut dire que c'est du théâtre. Ces manifestations semblaient à Jean Genet quelque chose de surjoué ou de théâtral. Voilà. Bon, il y a d'autres histoires. Il y a Vadim qui embrasse une vieille dame et qui dit c'est si facile de faire plaisir. Oui. Non, franchement, ce livre est virevoltant, comme vos films. Allez voir Le Voyage en pyjama. Moi, je pense qu'il restera vos films et cette dernière phrase du livre que Alain Kruger vous avez coécrit et qui vous pouvez la commenter. Le tournage est comme un phalanstère, le film est une arche qui nous sauve. C'est assez beau, non?
Ben c'est toutes les subtilités de Pascal Thomas, c'est qu'on s'attend à une grosse blague et on n'est pas du tout dans la grosse blague. On est dans une espèce de finesse poétique. Et on revient à la fantaisie, à une légèreté qui n'est pas si légère que ça.
Pascal qui est ému, je vous signale, Pascal, qu'il restera vos films, mais aussi notre conversation. Cette conversation est importante. Aucun des invités de mon émission ne mourra jamais. Ils seront éternellement sur Spotify. Sachez-le.
Merci pour cet instant d'éternité à venir.
Ah oui, tiens, j'avais juste une dernière question. C'est la question d'Éric Neuhoff. Vous avez habité rue Truffaut.
Oui.
À quand la rue de Berry?
Ah, je ne sais pas. C'est que j'ai beaucoup de mal à passer la Seine.
Oui.
Donc, rue Truffaut, j'ai fait, oui. Mais à nouveau, passer la Seine à nouveau, et puis aller du côté dans le 16e ou 8e.
Rue de Berry, c'est 8e. Ouais.
Oui, 8e, non, j'irai jamais.
Bon. Merci beaucoup, Pascal Thomas et Alain Kruger, d'avoir accepté de parler pendant une heure de ce qui est un cinéaste important qui refuse de l'être. Merci aussi à Philippe Gault, le producteur, Amandine Legris à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec les variations de Francis Drezel et n'oublions pas que Souvenir en pagaille de Pascal Thomas est publié aux éditions Séguier et coécrit par Jean-Olé Laprune et Alain Kruger. Bon samedi soir à tous. Ne faites pas trop les foufous.
Allez au cinéma.
Allez au cinéma, oui, allez au cinéma.